je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, pis sommes, oder bonjour, le Lévi-Rundfunk zu hören von der Welle 102.9. Heute ist es ein besonderer Tag. Normal, wir senden erst, mach mir ein Plätzchen, fais-moi une place, moteur, ça tourne. Ce petit jour de début du mois de mars, à quelques jours du printemps, nos jours s'étirent, se rallongent, un véritable spectacle qui se déroule devant nos yeux émerveillés. Et cela a un effet positif sur notre joie de vivre, toujours plus de lumière, toujours plus de bonne humeur. Et voilà mon billet d'humeur du jour. J'ai fait une place à un grand homme, grand par sa taille, aussi par son talent de jongleur avec les mots et l'écriture. Mon invité du jour est journaliste en presse écrite, avec une grande liberté de plume et une grande hardiesse dans tous ses écrits. Salut cher collègue journaliste, je suis très heureux de ta venue de Boris pour surfer sur nos ondes du 102.9. Comment tu vas, Francis Lafont ?
Très très bien, surtout ici, très paisible.
À la radio avec cette belle musiquette de Satie. C'est un grand honneur de partager avec toi cette émission. On va faire un peu plus ample connaissance. Tu es Alsacien, Elsässer ? Tu viens du Grand Nord Alsacien, là où brille l'étoile polaire ?
Du Grand Nord, très précisément de l'Outre-Forêt.
Ouais.
Une légende, certaines légendes sont perfides et celle-ci l'est vraiment, dit que le monde s'arrête à la forêt de Haguenau et au-delà, il y a l'Outre-Forêt. Donc je viens en fait du néant.
D'un no man's land, tu veux dire ?
D'un no man's land, davantage encore du vrai néant qui est encore plus que le Néandertal. C'est une autre époque. C'est... Partir de rien, finalement, ça laisse beaucoup de liberté.
C'est un bien pour un mal. Comme ça, vous n'êtes pas assailli là-haut par les Strasbourgeois.
Non, c'est vraiment une région, je ne veux pas dire protégée, mais qui aime la tranquillité, peut-être trop parfois.
Moi, j'aime bien ce Grand Nord là-haut, du côté d'Obersteinbach, Lembach. Il y a quelque chose de particulier. Des châteaux forts partout, des forêts, du sable, des chemins sablonneux.
Alors, comme beaucoup d'Alsaciens, pour moi, les souvenirs immédiats qui remontent de l'enfance, ce sont des souvenirs attachés, poétiquement, à la bouffe. Et donc, ça peut être des petits plaisirs. Mais pour moi, c'est... ce sont les balades au Fleckenstein, où on jouait au football avec des copains sur le petit pré devant le restaurant, mais on attendait surtout le 4 heures et les tartines de beurre et de confiture au Fleckenstein. Donc c'est ça qui revient immédiatement quand on évoque l'enfance de ce pays très, très heureux.
C'est ta Madeleine de Proust ?
C'est vraiment ma Madeleine de Proust, oui.
La confiture, les odeurs, les...
Oui, mais je pense que beaucoup d'Alsaciens, quand on leur parle un peu, qu'on les retrouve en Alsace ou ailleurs, ils parlent nourriture, enfin.
C'est vrai, mais le paysage de Drakenbrunn, c'est assez militaire, il y a des avions, c'est un peu tristoun quand même, non ?
Non, Drakenbrunn. En fait, Drakenbrunn, c'est un lieu particulier, puisqu'il y avait deux lieux bien identifiés. Il y a toujours le village avec des maisons à colombage, dont la nôtre. On avait une épicerie familiale à Drakenbrunn au village. Et puis, il y avait ce qu'on appelait la base militaire qui avait une fonction stratégique très importante puisque la station radar surveillait au moment de la guerre froide tout l'est de l'Europe. Mmh. Et donc, les lieux étaient séparés, les mondes pas tellement parce que les enfants du village fréquentaient les enfants des militaires. Mais ce qui est... touchant, c'est que cette base aérienne qui a été aujourd'hui désactivée il y a plusieurs années, elle est devenue un lieu tourné vers l'écologie dans le cadre d'une reconversion.
Le
chemin des cimes.
C'est beau ça, ouais.
Et je
tu as déjà
trouve...
été baladé là-haut sur la canopée des arbres.
Moi, j'étais en bas, je ne suis pas monté parce que je faisais juste un rapide passage. Non, c'est pas une question de vertige, c'était une question de temps.
Ah,
mais
ouais.
Ce qui me touche beaucoup, c'est que finalement, une zone qui symbolisait d'abord la guerre est devenue un lieu tourné vers l'environnement, vers l'écologie. Ouais. Je trouve que pour un lieu, c'est un
beau
très,
symbole.
Très très beau symbole.
Bien sûr, bien sûr. Alors je sais que tu as fait toute une partie de ta scolarité à Drakenbrunn et à Weissenbourg.
Oui, à Drakenbrunn à l'école primaire, mais très vite je suis allé à Weissenbourg. Oui.
Et ta scolarité, t'es plutôt un bosseur ou un rêveur ?
Ah non, moi j'étais plutôt élève moyen. Moi j'avais un an d'avance que j'ai perdu en première, donc c'était un peu poussif. Et j'étais assez turbulent de réputation, mais j'ai eu des professeurs qui ont été déterminants. J'ai eu notamment un professeur de français, Jean-Pierre Hubert, qui nous a initiés à la chanson, à la poésie, et qui, joliment, est devenu un ami ensuite, parce qu'on ne se rend pas compte, quand on est élève, on croit toujours que nos enseignants, instit ou profs, sont beaucoup plus vieux que nous. Mais en fait, lui était en début de carrière, on avait en fait 5-6 ans de différence. Après, on a eu vraiment une longue amitié.
Une belle complicité, quoi.
Avant son décès prématuré, il y a quelques
années. C'est
souvent
comme ça dans une scolarité, quand tu as un prof que tu affectionnes, que tu aimes bien, et en fait, il y a un échange, c'est là que tu apprends le mieux, c'est parce qu'il te fait confiance.
Oui, d'une part, il y a cette confiance qui était déterminante et que d'autres profs, mais sûrement avaient-ils raison, n'ont pas eu à mon égard. Mais c'était déterminant parce qu'on a un attachement au prof, on a un attachement, c'est ça la réussite, je crois, pour un enseignant, à la matière. Et la passion de la chanson est clairement venue
de là.
De là, il nous apportait des albums, des micro-sillons, il amenait des disques en classe. C'était, à l'époque, c'était une pédagogie
absolument neuve.
Et
c'est ce qui t'a donné envie de chanter aujourd'hui, parce que tu es un peu en retrait de ton premier métier. Aujourd'hui, tu as un autre métier qui est chansonnier, tu écris des chansons, tu interprètes. Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit bout de quelque chose avant de continuer ?
Volontiers,
bien
entendu.
Qu'est-ce que tu aimerais ? La salsa des Alsaciens ?
Par exemple, la salsa des Alsaciens, c'est un hymne rigolo à l'Alsace, mais qui dépasse chaque fois qu'on joue quelque part.
On va écouter un petit extrait avant de continuer.
Oui.
La samba est du Brésil, la samba, elle enflamme la samba, tous les singes de Bahia. Le reggae, la Jamaïque l'a inventé. Le reggae a fait la gloire de Bob Marley. Mais la salsa et la danse des alsaciens, à toutes les sauces, à tous les vins. Pas de salsa sans salsacien. Le mambo, le mambo.
C'est un bel hommage pour les Alsacos, ça. Hein?
Oui.
C'est joli. Et t'as une voix incroyable, écoute. Il peut être fier, là, je crois, ton prof Hubert, Jean-Pierre, là. Il peut être fier de t'entendre chanter aujourd'hui.
Ben, il a connu mes débuts de chanteur. Moi, je chantais quand j'étais en fac, mais pas mes chansons. Je me suis vraiment mis à la chanson à la cinquantaine. En écrivant mes propres chansons, j'ai mis un peu de temps.
Tu les écris en fait comme un reportage, comme si tu partais en reportage ?
Alors, je crois qu'on ne se refait pas, mais on dit beaucoup que mes chansons sont des chansons reportage parce que, d'abord, elles sont courtes et souvent racontent des histoires. Je pense qu'une belle chanson, souvent pour moi, c'est une chanson qui raconte une histoire brièvement. C'est beaucoup plus court qu'une nouvelle. Et c'est pas forcément facile à écrire, mais c'est vraiment ça qui me touche quand on me fait partir dans un univers choisi par l'auteur-compositeur et de partir ailleurs.
Ouais, c'est beau, ce que tu dois en reviendra un peu plus tard, écouter autre chose. Je voulais quand même te parler de ton métier premier de journaliste. C'était ta passion d'écrire, t'étais content de partager des infos avec le lecteur ?
Alors, le partage de l'info est déterminant. Si vous, j'ai fait l'Institut d'études politiques à Strasbourg avant de faire l'école de journalisme.
T'as fait le QEJ à Strasbourg ?
J'ai fait le QEJ à Strasbourg, oui. Et en Sciences Po, il y avait une section qui s'appelait Service public. Moi, je ne suis pas entré dans la fonction publique, mais j'ai toujours dit, quand j'étais au journal, qu'on est d'abord au service du public. Et donc, pour moi, la nuance était finalement assez faible, assez frêle. Et c'est vraiment ce qui comptait. Et comme je venais du néant, moi, je n'ai pas de message à porter, mais je me suis vraiment nourri. Je n'existais que pour et parce que me racontaient les gens. Et j'ai notamment commencé par l'information locale, ce qui était magnifique parce qu'une immersion dans une société, on rencontre des gens, on est comptable parce qu'ils vous parlent le lendemain, quand vous avez écrit, vous les rencontrez à 8h30, ils vous parlent de votre papier, ils disent là t'as écrit des conneries ou là c'était bien.
Et t'as démarré à l'Alsace dans le 6-8 en fait.
Moi j'ai démarré, moi je suis du nord de l'Alsace et mes amis orinois à l'école de journalisme ont appris qu'il y avait un journal qui s'appelait l'Alsace à Orin que dans le Grand Nord on ne connaissait pas et l'Alsace a fait l'erreur ou le bon choix
de
m'embaucher.
Ah oui.
Et pardon. Donc j'ai travaillé à Mulhouse grâce à un ami qui connaissait le rédacteur en chef. À l'époque, les embauches, elles se faisaient de manière cooptée, rapide, sans formalité. Et je suis entré dans ce journal qui m'a gardé tout au long de mes 42 ans de carrière de journaliste. Donc, c'était une très belle aventure.
Et très rapidement, avec ta plume, on peut le dire, t'es parti sur Poris. T'étais devenu une sorte de correspondant, pour l'Alsace, à Paris.
Auparavant, j'avais fait plusieurs années de local et j'avais été dans un secteur passionnant, c'est l'économique et le social en Alsace. Et puis l'Alsace avait recréé en 85-86 un bureau qui avait existé dans le temps. Et donc j'étais pendant 20 ans correspondant à Paris avec une liberté incroyable. J'étais seul en poste, je choisissais mes sujets en fonction de l'actualité, mais toujours au service des lecteurs alsaciens. J'étais finalement leur porte-voix et leur porteur d'écoute.
Mais tu n'étais pas que dans les salons feutrés de l'Élysée, tu étais plus sur le terrain un peu.
Alors, pour moi, le journalisme était indissociable et est toujours indissociable du terrain. Et le terrain à Paris, pour un correspondant régional, il est magnifique puisque à la fois, je couvrais l'actualité nationale, je faisais un éditorial politique. Au bout de quelques années, je suis devenu aussi éditorialiste, mais c'était vraiment en parallèle de mon métier qui était chercheur d'Alsaciens pour beaucoup, parce que il y avait un double échange. Moi, je rencontrais des personnalités souvent très diverses dans tous les mondes, dans la culture, la politique. Donc moi, j'étais tout secteur et j'étais heureux de les rencontrer. C'était souvent des gens qui avaient des responsabilités, donc c'était des très bons informateurs, et eux étaient très heureux d'avoir en effet miroir que les personnes qui connaissaient en Alsace les reconnaissaient. C'était doublement valorisant, mais c'était pas un échange, c'était vraiment spontané, il y avait un bonheur partagé de se rencontrer.
C'est un beau métier, le journalisme. Tu voyages, tu fais plein de choses.
Moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est un beau métier aujourd'hui. Les conditions de la presse
c'est plus
sont
la même
tellement
chose,
dégradées.
Ouais, ce que nous, on a connu, les jeunes ne le connaîtront pas.
Et je ne veux pas faire le... Avant, c'était mieux, mais non. Objectivement, en tout cas, on avait une liberté de faire une possibilité de rencontrer toutes les personnes qu'on vous voulait et un plaisir d'être dans cette immersion.
Bien sûr. Toutes les portes s'ouvraient, en fait. Toutes les portes s'ouvraient dès que tu téléphonais. Alors, je me souviens aussi d'une anecdote que j'ai suivie comme un feuilleton. Je sais que du temps de je crois que c'est quand la gauche a perdu le pouvoir, Madeleine est devenu ministre de l'économie ou je ne sais plus trop quoi. Je crois que c'est ça. Oui. Et toi, avec ton audace et ton courage, tu es allé au ministère et tu t'es installé dans son bureau. C'était un peu ça, non?
Oui.
C'était une anecdote extraordinaire.
On parle de liberté. Peut-être que ça montre bien la liberté dont on disposait à l'époque. Et notamment l'Alsace, qui était un journal de taille moyenne, avait un avantage, c'est qu'il avait peu de hiérarchie et a toujours fait confiance à ses journalistes de terrain. Et donc, on avait une tradition au journal, il s'appelait des enquêtes vérité, et quand il y avait un élément d'actualité, on essayait de raconter de l'intérieur ce qui se passait. Moi, je sais assez bien jouer l'idiot parce que j'ai vraiment des bases dans ce domaine, Et j'avais prévu de montrer de l'intérieur comment se passe le pouvoir, la passation de pouvoir. Et là, c'était un moment particulier de l'histoire, puisque la gauche avait été au pouvoir et avait perdu les élections. Et ouais, il y a eu la fameuse cohabitation.
Ouais.
Et Alain Madelin a remplacé Édith Cresson au ministère de l'Industrie.
Ah, de l'Industrie.
De l'Industrie.
Ouais. Ouais, ouais.
Et moi, j'avais été donc au ministère de l'Industrie, au moment de la transition, où rien ne se passait, les équipes du service de communication jouaient aux cartes pendant ce temps-là, ceux qui partaient, et ceux qui arrivaient n'étaient pas encore nommés. Et donc, moi, je me suis dit, il y a un truc à faire, et je suis allé donc m'installer dès la nomination d'Alain Madelin. Lui était nommé, mais ses équipes n'étaient pas nommées. Et donc, je me suis installé au service de communication. J'ai d'ailleurs travaillé plus de 24 heures pour Alain Madelin.
Et tu as fait des papiers pour l'Alsace.
Et j'ai raconté cette histoire.
Je me souviens de ça.
Et donc, j'ai raconté comment ça se passait. Comme les huissiers me connaissaient, j'ai pu rentrer. Et donc, j'ai joué à l'idiot. J'ai fait pendant un vendredi et un lundi matin le boulot. Je répondais à des questions des journalistes qui me disaient... clin d'œil, évidemment, je pense que la malice est quand même un élément important dans les relations sociales. J'avais laissé, à la fin, pour signaler ma présence et en forme de clin d'œil, une bouteille de vin d'Alsace dans le coffre-fort de mon bureau.
Donc c'était un beau cadeau.
Et donc c'était à la fois démonstratif de cette pagaille ou de ce no man's land, peut-être toujours le néant qui revient, de ce vide. Et ça avait beaucoup fait rire les lecteurs, mais ça avait une symbolique, c'est que à l'époque, le Madelin, c'était vraiment un libéral, il venait vraiment même de l'extrême droite à l'origine, et le papier était intitulé, ironisement, puisque c'était le début des privatisations, « Comment j'ai privatisé le ministère de l'Industrie
». Ouais, c'était bien, c'était une belle anecdote et je m'en souviens depuis tellement... Et je le raconte de temps en temps, mais même mon ami John Reichenbach, qui viendra bientôt au micro la semaine prochaine, il ne l'avait pas entendu, il ne l'avait pas lu ça. Mais voilà, c'est une belle anecdote, ça prouve que tu as de l'audace et un journaliste doit avoir de l'audace, je crois. Et il faut savoir pousser des portes, quoi.
Oui, et on avait dans cette série, j'en avais fait un autre, j'avais été en prison à Bâle parce que quand les frontaliers ne payent pas leur PV...
Le PV, tu n'avais pas payé ton PV, ouais, c'est ça.
On ne paye pas le PV et si on est coincé à la
frontière, ouais.
on va en tôle avec une durée proportionnelle au montant de l'amende et ça m'est arrivé... Et
donc T'as passé combien d'heures?
J'ai passé 24 heures, montre en main, avec un détenu de droit commun
et donc,
qui avait...
T'es sorti de la prison et c'était gratos, t'as pas payé.
J'ai pas payé, mais c'est très très troublant
t'as
d'être
payé
même 24
temps,
heures.
Ah ouais, j'imagine.
C'était aussi quelque chose qui montrait les relations franco-suisses, puisque je n'ai pas eu le droit de téléphoner à ma famille,
que ce soit.
Que j'avais prévenu, puisque c'était une opération montée. Mais voilà, c'est comment quelque chose d'anecdotique peut finalement montrer des éléments de deux cultures, suisse et française en l'occurrence. Et encore 10 ans plus tard, on m'appelait le tollard au sein du journal.
C'est mignon. Ouais. Écoute, on va continuer un petit peu à écouter un petit peu de musique, hein, parce qu'on va se faire reposer un petit peu les oreilles. Si on écoutait un petit bout de Wissembourg, qu'est-ce que t'en penses?
Avec joie.
Ça te plaira? Ben écoute, Thomas, à toi de jouer.
Au fil de l'eau de la Lotère, française aux cousins très germains, ta géographie singulière vient se blottir au creux du Rhin, prospère et un peu désuète, mais pleine d'ambition planétaire. Tu avances et puis le regrettes, désirant tout et son contraire. Wissembourg, Wissembourg, qui joue les dagobert, pourquoi mets-tu toujours tes envies à l'envers?
C'est joli, hein, dis donc, t'as une belle voix, mais comment tu l'as travaillée cette voix?
Je ne l'ai pas travaillée, sauf en chantant. Inné, je pense pas, enfin j'avais sûrement une base. Mais après, c'est le plaisir de chanter. Je suis vraiment autodidacte en musique et en voix. Joliment, mes amis, quand je suis parti à la retraite, au
ça veut dire qu'on est t'es retraité, ça se voit un peu comme moi, on est des cotons-tiges. Hein. Tu sais ce que c'est que cotons-tiges ? C'est quand on est blanc au-dessus.
L'image est très visuelle et très jolie, mais je pense que c'est assez pratique dans une foule d'être repéré comme ça.
Ouais.
Il y avait quelqu'un qui a été cotons-tige, c'était Lionel Jospin.
Ah bah oui.
Et donc et c'était
il est
sûrement le plus beau cotons-tige. Parmi les premiers ministres des dernières années.
Et alors, ce nouveau métier de chansonnier, qu'est-ce que ça te procure ? Tu joues avec plusieurs guitaristes, accordéonistes, je crois. Hein, t'as du lourd derrière, hein, ça assure derrière.
Ouais. La base en concert essentiel, c'est piano-voix. Avec un très très grand pianiste qui s'appelle Antoine Delpe, qui a vraiment un talent reconnu, sinon piano, guitare ou violoncelle, avec un musicien qui s'appelle Amos Ma et qui me porte depuis plus de 20 ans, avec lequel on a une complicité de plus de 20 ans. Et puis, donc c'est piano-voix ou piano-violoncelle-voix en dominant. Mais pour un album, il y a eu beaucoup plus, puisqu'il y a eu la percussion, du violon, du violoncelle, parce qu'un musicien, d'ailleurs, peut jouer plusieurs instruments dans un enregistrement.
D'accord. Et tu as sorti un CD il y a combien de temps ?
En fait, il est sorti de manière, comme beaucoup d'artistes, à un très mauvais moment, puisque l'album...
C'était pendant le Covid.
Le deuxième concert de présentation de l'album est arrivé le week-end où a été annoncé que tout allait être fermé. Et donc, il date de 2020, mais il a commencé à tourner que finalement, il y a 2 ans, et vraiment.
On peut voir tes spectacles où, en ce moment, tu chantes où ? Bon, tu sais que tu habites Paris, tu chantes là-bas, dans les cabarets.
Nous, on chante où on nous invite, donc ça peut être des lieux privés.
Aujourd'hui, tu es invité à la radio, hein, tu le sais.
Aujourd'hui,
bien.
Je suis invité à la radio, ça me fait grand plaisir. C'est souvent une cooptation amicale où des gens me désignent des salles ou lieux privés. Là, je vais en Alsace, mon prochain concert, c'est le 24 mai à Wissembourg, à la Nef, où j'ai déjà joué.
C'est bien.
Ouais. Mais je joue à domicile. J'ai joué l'an dernier, c'était un moment magique, à Mulhouse, où je retrouvais mes amis du journal, qui étaient très fidèles, et tous mes amis mulhousiens.
Ils t'écrivent des papiers quand tu viens ? Ils te font une petite promo ?
Moi, c'est un peu injuste dans ce monde, finalement, assez atomisé du spectacle de chansons françaises. Franchement, mes confrères sont très, très bienveillant à mon égard. Alsace, DNA, c'est vraiment très, très chouette.
On va leur rendre un petit hommage. On va écouter un morceau qui s'appelle Quotidien. Et ça parle de ton journal, je crois.
Du journal quotidien en particulier, qui est vraiment menacé dans sa partie, dans sa version écrite.
C'est vrai. Bon, vas-y, Thomas.
Le baromètre planétaire, je le consulte à pleine main. Info brûlante et newspaper, d'en bas de chez moi et de plus loin. Par un survol puis sous la loupe, lecture du feuilleton matinal, révélation et microscope, c'est un réveil qui me régale. Il n'a pas dit son dernier mot, lui mon coco, lui mon coco. Lui mon coco, mon coco, mon coco, mon coco, mon coco. Mon quotidien, entre le café et les tartines, le bonheur, la déconfiture, d'un monde que depuis ma cuisine j'examine sous toutes les coutures. je ris, je râle, je m'indigne, je vais du futile à l'essentiel.
Bel hommage hein, pour le journalisme, ce que tu dis, le quotidien, c'est bien.
C'est un hommage, c'est plutôt, c'est en parallèle un souhait, c'est que ça tienne encore. Et donc c'est un souhait que demeure la version papier de la presse quotidienne, notamment quotidienne régionale.
Tu sais qu'à Strasbourg, il y a un papier dans les journaux récemment où la mairesse disait on fait plus d'hommages, mais on fait aussi des fémages. Tu connaissais ça, toi ? T'as déjà entendu parler de ça ?
Oui, alors je crois que sur cette côté de ce qu'on appelle l'écriture ou le langage inclusif, où c'est un peu l'aspect rigolo et la critique là-dessus est évidente. Quand ça devient trop, c'est trop.
Oui, c'est
mais,
vrai.
Mais je pense qu'on est obligé de passer par une phase comme
exactement.
Celle-ci pour
Parlons un peu de choses plus intéressantes. Qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique, toi ? Raconte-moi.
Moi, je suis encore une fois autodidacte. Mon instrument avec lequel je peut composer des musiques que ensuite mes camarades arrangent, c'est la guitare.
Tu joues de la guitare
Jouer de la guitare, c'est
tu la gratouilles.
Il y a une fameuse chanson de Bobby Lapointe qui moque du jeu de guitare, Bling Blang.
Ah ouais.
Mais surtout, moi, surtout mes débuts de guitariste, mes premiers accords, je ne suis pas sûr qu'ils me disent que j'ai beaucoup progressé, c'est Roger Siffert qui me les a appris parce que à la fac, on avait un lieu de rendez-vous quai des Bateliers dans un bistrot qui s'appelait chez Brigitte, qui était pratique parce que quand on n'allait pas en cours, on savait qu'on allait retrouver des copains de notre bande qui étaient multispécialistes. Moi, j'étais à Sciences Po, Siffert était en lettres, il y avait des pharmaciens. Et donc, on consacrait beaucoup de temps au bistrot et Roger, qui chantait déjà et qui avait déjà une maturité, m'a appris les
premiers accords. C'est bien. Alors, c'est quoi tes projets 2024 ? Donc, tu vas jouer à Weissenburg et après, c'est que
nous, c'est de continuer nos tournées parce que le grand plaisir, c'est tout de même rencontre avec
le public.
Le public, c'est chaque fois des moments intenses.
Ça doit être éblouissant,
et donc, là, on a des concerts. Donc, je joue à Weissenburg le 24. Le lendemain, je vais jouer près de Vienne, en France. Peut-être d'ailleurs à Vienne, en Autriche, si les Alsaciens de Vienne m'y invitent. Je vais jouer au Chambon sur l'Union en été.
Enfin,
et donc,
beaucoup de
le
projets,
grand plaisir,
quoi.
C'est d'arriver dans des lieux où même personne ne me connaît et qu'on se retrouve une heure et demie plus tard et on est les plus vieux amis du monde parce qu'on a partagé
un très chouette moment. Quoi.
Moment. Et donc, il y a en commun avec le journalisme que c'est quand même le mot et la parole qui pour moi est essentielle, parole au pluriel, mais la parole, la loyauté, tenir sa parole est encore plus important, mais que le journalisme est quand même un journalisme d'observation, de distanciation assez planqué, et d'aller sur une scène, ça oblige à s'exposer, et c'est cette exposition qui fiche la trouille.
Toi, tu as un peu le trac avant d'y aller, tu veux dire ?
Moi, j'ai le trac, oui.
Avec tout
oui.
ce que tu as rencontré, les gens du monde
je
entier,
pense pas,
tu penses que le trac est toujours là ? C'est peut-être une bonne chose, non, le trac ?
Je pense que c'est comme certains indicateurs médicaux, il y a du bon et du mauvais.
Tu sais, ce matin aussi, je me disais ce que ça allait bien se passer. J'avais aussi un peu le trac de te rencontrer. Parce que
moi, j'avais le trac de venir
parce que je sais qui tu es, que j'ai toujours lu tes articles. Je t'ai rencontré des fois dans des reportages et ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, je te remercie d'être venu de Paris jusqu'ici à nos micros. Je te souhaite beaucoup de succès pour tes prochains concerts. En tout cas, mille merci d'être venu. Ça me fait plaisir et je suis très touché de te voir chez nous. Radio Judaïka.
Je renvoie les remerciements parce que je crois qu'ils sont surtout dans ce sens.
T'es gentil. Merci, générique de fin.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes.